Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, l'État face au terrorisme. 5 ans après les attentats de Toulouse, la France a connu une série d'attentats meurtriers. Aussitôt évoqués, aussitôt contredits, le débat sur la levée ou la prolongation de l'état d'urgence. Ce week-end encore, l'attaque d'une patrouille de l'opération Sentinelle a interrogé notre dispositif de sécurité. Auteur des 2001 de l'état d'exception et d'une histoire des institutions régulièrement actualisée, il vient de faire paraître chez Gallimard à l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État. Historien et juriste, François Saint-Bonnet est professeur d'histoire du droit à l'université Panthéon-Assas, spécialiste des libertés publiques et des droits fondamentaux. On se souvient des arguties juridiques brocardées par Nicolas Sarkozy face à une situation exceptionnelle qui a vocation à durer, des craintes de guantanamoisation de notre droit, des tentatives de réforme de la Constitution, des vaines polémiques sur la déchéance de nationalité, des divergences aussi sur le degré de liberté publique à rogner. L'État lutte-t-il efficacement contre le terrorisme? Faut-il encore renforcer l'arsenal législatif? L'armée, la justice, la police sont-elles suffisamment armées pour répondre aux défis posés par le terrorisme? Autant de questions qui sont régulièrement posées depuis quelques années. Pour y répondre, notre invité est remonté aux sources de la violence, de la belle mort des anciens, aux croisades, aux conflits de religion. François Saint-Bonnet retrouve les chemins par lesquels les modernes réussirent à civiliser la violence. Il raconte comment le cadre protecteur que s'est constitué l'État a été mis en place et à quoi il répond. Alors que peut aujourd'hui l'État de droit contre ceux qui ne respectent aucun droit? Aujourd'hui, quel choix faire? Surtout, bonjour François Saint-Bonnet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La menace est-elle vraiment nouvelle? Tout n'a pas un caractère inédit, écrivez-vous dans cet ouvrage, dans cet essai, à l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État. Ni la figure de l'ennemi, ni la réponse de l'État pour régler la violence. Il faut opérer un retour aux sources, un retour donc à l'histoire. D'ailleurs, vous le posez assez clairement, si ces djihadistes n'ont rien à voir avec ce que nous sommes, ils ont beaucoup à voir avec ce que nous avons pu être. Vous nous appelez à avoir la mémoire longue?
J'ai été très surpris au moment de ces attentats, et c'était vrai dès 2001. Il m'a semblé que ce qu'il y avait de radicalement nouveau et de radicalement singulier dans le terrorisme djihadiste, c'était un type de rapport à la mort, une mort qui était souhaitée, qui était magnifiée, qui était glorifiée. Je veux dire qu'on a connu des terrorismes et des gens qui n'ont pas eu peur de la mort. Je pense aux anarchistes à la fin du 19e siècle. Ils n'avaient pas peur de la mort, mais ils ne la souhaitaient pas. Ils ne la regardaient pas comme une gloire. Il me semble que les djihadistes, ils ont quelque chose de singulier en cela. Et en historien, effectivement, historien des idées, historien du droit, je me suis dit qu'il fallait peut-être aller rechercher dans la culture occidentale, mais pas seulement, ce qu'il pouvait y avoir de commun dans quelque chose qui est de l'ordre d'un certain avantage à mourir. Et j'ai repéré, me semble-t-il, deux grands motifs pour lesquels quelqu'un peut trouver, sinon agréable, en tout cas profitable de mourir. Il y a effectivement la belle mort antique, on se souvient d'Achille, qui préfère une vie courte et glorieuse à une vie longue et soumise à l'abandon, à l'oubli. Et puis aussi cette figure du martyr chrétien qui va préférer la mort à la vie parce que on lui fait la promesse de l'éternité, une promesse performative, une promesse à laquelle il croit, et il choisit lui aussi au fond la vie longue, la vie éternelle en l'autre monde plutôt que notre vie. Ce qui fait que au fond, il me semble que pour penser le djihadisme contemporain, il faut se situer quand même assez loin dans l'histoire, dans une histoire d'avant le 16e ou le 17e siècle, c'est-à-dire d'avant cette pensée que nous avons, à travers la fin des guerres de religion et Hobbes, qu'on a peur de la mort pour elle-même, par elle-même, que la mort en elle-même, y compris si l'on est croyant, n'est pas quelque chose de désirable.
Oui, vous insistez donc sur ce rapport à la mort, qu'il est doux et honorable de mourir pour la patrie, écrivait déjà Horace. Vous rappelez que l'idéologie de la belle mort a longtemps imprégné nos mentalités, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Cette étrange certitude de ceux qui meurent en martyrs d'obtenir la vie éternelle était aussi présente en gros dans la chrétienté. Elle a justifié les croisades, elle a justifié aussi la défense des lieux saints. Vous dressez donc un certain nombre de similitudes, mais vous appelez surtout à vous plonger dans l'univers mental dans lequel le terrorisme terrorisme opère aujourd'hui. En gros, c'est cette idée qu'il vaut mieux comprendre son ennemi pour savoir comment l'affronter. Vous recensez aussi un certain nombre de différences majeures entre hier et aujourd'hui, à commencer par cette étrange forme de guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La guerre contre le terrorisme autoproclamé ressemble en tout cas pas du tout à celle qui opposait hier les nations et les empires. Quelle particularité donc de cette guerre asymétrique? Il faut tout de suite peut-être poser cela avec vous, hein, François Saint-Bonnet, pour comprendre de quoi on parle.
Tout à fait. En fait, la guerre telle que conçue par les modernes, c'est une guerre entre deux ennemis. C'est pas la guerre contre une manière de procéder. Et quand on dit qu'on est face à une guerre contre le terrorisme, on a l'impression qu'on est dans une posture totalement morale. On est en guerre contre des gens qui n'ont pas de bonne manière, si vous voulez, qui font des choses très 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 mal. Mais on n'identifie pas précisément. On peut être en guerre contre des terroristes, contre des États terroristes, contre des individus, mais la notion de guerre contre le terrorisme est quelque chose qui à nombreux égards, nous échappe. Alors pourquoi, on a tendance à utiliser cette formule de guerre contre le terrorisme? Eh bien, tout simplement parce que on est sorti de la logique de la guerre interétatique. Il faut voir comment on est entré dans cette logique de la guerre interétatique. Et la construction de la guerre interétatique, c'est la fin des croisades dans un premier temps, et c'est la fin des guerres de religion au XVIe siècle dans un second temps. C'est cette idée que, étant donné qu'on dressait une frontière grande entre l'ici-bas et l'au-delà, hein, c'est ce que Gaucher appelle l'éloignement de Dieu, à partir du moment où on faisait une grande frontière entre l'ici-bas et l'au-delà, il fallait aussi faire des frontières entre les États. Et que c'est ce qui permettait, à l'intérieur de l'État, de pouvoir vivre sa religion et ses fins dernières comme on l'entendait, et à l'extérieur de l'État, d'avoir une zone de violence, mais une zone qui serait un tant soit peu civilisée grâce aux droits des gens, ce qui est devenu ensuite le droit international humanitaire ou le droit des conflits armés.
Une question d'Antoine, merci.
En fait, le parallèle, effectivement, avec les croisades, enfin tout ce qui a pu se passer à ce niveau-là, religieux en tout cas, dans les siècles précédent, mais on peut s'interroger aussi sur les différences finalement entre j'allais dire le martyr en islam et le martyr dans la chrétienté, par exemple, parce qu'il me semble qu'il y a, et vous le notez à plusieurs reprises, une adéquation entre ce martyr et la vision eschatologique d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire une tension qui arrive à son terme, et donc l'idée que, puisque c'est la fin, on peut aussi disparaître glorieusement plutôt que d'attendre que ça se termine tout seul. Donc, cette dimension-là, la question que je vous pose est de savoir, est-ce qu'elle n'est pas spécifique à l'islam qui, précisément, n'a pas fait théologiquement la distinction entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, et qui, au contraire, ramène la transcendance dans un moment présent. Est-ce que ça ne fait pas une différence ?
Je ne crois pas que ça fasse une différence substantielle entre les religions. Je pense qu'il y a une différence entre les moments de chacune de ces religions. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Dans l'islam, la plupart des gens prônent ce qu'on appelle le grand djihad, et pas le petit djihad. C'est-à-dire, le grand djihad, c'est une purification de l'âme, une vie sans péché, mais sans violence. Et le petit djihad est celui que l'on utilise quand on ne peut pas faire autrement. Mais ce qui est prôné, c'est le grand djihad. Et quand une société, comme c'est le cas de la société d'une partie des musulmans aujourd'hui, craignent pour leur disparition, ils pensent qu'il faut passer dans la lutte physique. Songeons maintenant à ce qui s'est passé dans le christianisme. Le christianisme a toujours été une religion pacifiste, iréniste. Et soudain, voilà que, eh bien, pour des raisons que j'explique dans le livre, qui sont un petit peu longues de développer, mais que à la fin du XIe siècle, eh bien, le christianisme se met à vivre dans une certaine angoisse, parce qu'il pense que, parce que nous ne détenons plus Jérusalem, la voie à emprunter pour accéder à la vie éternelle est coupée pour les chrétiens. Et donc, un pape, Urbain II, va promettre à ceux qui vont tuer et ceux qui vont mourir à l'occasion des croisades, cette vie éternelle, quand bien même ils auraient mené une vie de péché. Alors, cet épisode des croisades dans le christianisme, avec des moments paroxystiques, hein, Bernard de Clairvaux, qui a un discours extrêmement, qui prône la violence, ce discours est isolé. Et je crois que de la même manière, dans l'islam, le djihadisme, hein, c'est-à-dire la volonté politique d'utiliser le petit djihad est quelque chose de relativement isolé. Mais il me semble clairement que toute religion potentiellement peut justifier la violence. En général, elle le fait quand elle se sent en danger et qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, il est vrai que je dirais que le Coran est un texte qui est plus violent que ne le sont les évangiles et la Torah ou l'Ancien Testament. Mais il n'y a aucune fatalité, ni dans un camp ni dans un autre, à avoir des lectures littéralistes. Hein.
Vous les avez lues ?
Oui, bien sûr.
Vous vous êtes plongé dedans. Vous avez vraiment fait un travail comparatif entre tous ces textes.
Bien sûr, évidemment, il est très important pour pouvoir comprendre exactement ce qui motive chacune de ces religions. Il faut effectivement rentrer dans le détail.
Mais au niveau de l'histoire, il y a quand même une différence de la vision de l'histoire, du sens de l'histoire. Puisque finalement, pour les chrétiens, bon, le Messie étant arrivé, on est dans une phase d'attente de la vie qui suit. Alors que, bon, pour l'islam, on est dans un moment historique précis qui consiste précisément à ce que la vérité, la croyance se répande sur la terre. Ça fait deux dimensions un peu différentes existentielles, sur le plan existentiel.
Le christianisme a aussi eu des tendances millénaristes, des tendances parousiaques, c'est-à-dire des tendances à penser une sorte d'urgence à réaliser dès ici-bas le royaume des cieux. Et puis il y a aussi dans l'islam un certain nombre d'oulémas qui considèrent qu'il n'y a pas de menace immédiate pour la Oumma et que la voie de la conversion par la paix est la voie adéquate. Donc je crois que beaucoup de gens font beaucoup d'efforts pour opposer systématiquement l'islam et le christianisme. Et il me semble, alors là c'est un point de vue plus immédiat et plus contemporain, mais que c'est un assez beau cadeau à faire aux djihadistes de considérer que l'interprétation djihadiste du Coran est la seule possible.
Vous écrivez aussi, François Saint-Bonnet, cette idée que la naissance de l'État moderne va être comme une tentative d'éteindre le feu, quelque part, de sortir de l'impasse des guerres de religion. C'est à partir de là que cette modernité qu'on peut considérer aujourd'hui menacée va se construire. Comment ?
Il y a quelque chose de très particulier, c'est que entre 1562 et 1598, c'est un laps de temps pour la France qui est relativement bref, le moment des guerres de religion. On passe d'un moment d'angoisse eschatologique où on considère que tuer au nom de Dieu offrira la vie éternelle ainsi que d'être martyr, un moment où on rentre dans la modernité et dans la peur de la mort. C'est très intéressant parce que le XVIe, c'est le siècle de la Renaissance, c'est le siècle de l'Antiquité, c'est le siècle des arts, de l'architecture. Et en même temps, on voit cette espèce de réapparition de quelque chose qui nous semble extrêmement archaïque. Et effectivement, c'est une résurgence de choses qui nous semblent archaïques et qui vont basculer très vite à travers un parti qui va essayer, entre les ligueurs, les catholiques les plus ardents et les protestants, qu'on appelle le parti des politiques, qui va consister à dire, au fond, le problème des guerres de religion, c'est que personne ne pourra jamais la terminer et que ça se terminera toujours dans un bain de sang. Et donc la seule solution, c'est la tolérance religieuse. En d'autres termes, la tolérance n'est plus le problème, la tolérance devient la solution. Et va s'ouvrir une vaste voie qui va aller ensuite du côté de l'Angleterre à travers le traité de la tolérance de Locke et puis ensuite du côté de la France avec le texte de Voltaire, mais où on va considérer que au fond la tolérance est ce qui permet de mettre fin aux guerres de religion. Et donc il y a quelque chose de la consubstantialité, de la construction de l'État comme forme politique, avec l'idée que au fond le lieu du politique n'est pas le lieu des fins dernières et ne peut pas l'être. Et que par conséquent, il faut que cet État pense la diversité des religions.
Et ce qui est intéressant, c'est que les frontières, vous dites, apparaissent finalement dans leur configuration actuelle à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que cette séparation qu'on va faire entre le haut et le bas va se retrouver géographiquement matérialisée.
Oui, avec...
Est-ce que vous faites un parallèle
complet ? Bien sûr, parce qu'il me semble que... À l'intérieur des frontières, c'est la possibilité de ne pas avoir à gérer sa propre sécurité. Et donc, ça permet de rentrer pour chaque individu à l'intérieur de frontières protégées dans une sorte d'intériorité et de rapport non politique à Dieu, de rapport, d'un rapport individuel qui se fait à la faveur aussi du développement du protestantisme, c'est-à-dire la possibilité d'une lecture individuelle des textes sacrés, c'est-à-dire un rapport à la rédemption qui n'est pas médiatisé par l'institution ecclésiastique.
Et l'islam pourrait emprunter cette voie, dites-vous ?
Il l'a fait en particulier dans l'Empire ottoman, entre le XVIe siècle et le début du XIXe siècle, où réapparaissent un certain nombre de gens qui ont des vues contraires à travers les frères musulmans. Mais la plupart, aujourd'hui, des États musulmans sont des États qui ne sont pas nécessairement indifférents aux questions religieuses, mais ce sont des États qui ne considèrent pas que c'est par l'État que le rôle de l'État est de faire atteindre à chacun la vie éternelle.
On peut faire donc des allers-retours à vous lire entre l'histoire et le présent. Si on revient juste sur cette idée du prestige éternel des djihadistes dans ce rapport à la mort, on peut convoquer les attentats de 2012 à Toulouse et se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, souvent, les terroristes tentent d'inscrire leur acte dans une légende qu'ils vont essayer de se forger à travers leur acte. Et on se souvient d'ailleurs plus souvent du nom de l'auteur de ces attentats que de ceux des victimes, que ce soit en janvier 2015 ou à Toulouse en 2012. Sur cette naissance de l'État moderne qui va donc naître des cendres quelque part des guerres de religion, François Saint-Bonnier, vous soulignez qu'aujourd'hui la fragilité des États, que l'État est fragile face à cette menace, alors qu'on avait le sentiment quand même que de ces années, l'État moderne s'était solidement construit sur ses bases, qu'il avait édifié des frontières, permis la sécurité de ses citoyens, ses institutions sont aujourd'hui assez séculaires, qu'il y a tout un système de défense des droits qui avait été mis en place. Alors comment expliquer ça ? Comment expliquer que des États, pourtant dotés d'armées puissantes, d'institutions solides et de sociétés habitées par des valeurs séculaires, comme vous l'écrivez, se retrouvent aujourd'hui fragilisés ? Ça semble être un paradoxe. Est-ce que c'est qu'un paradoxe apparent ?
Il y a deux choses. Il me semble que les États modernes ont jugé, notamment après la période de la guerre froide et après la chute du mur, on pensait au fond que ce qui les avait fait se guerroyer pendant des siècles pouvait être dépassé par, en quelque sorte, l'avènement, le règne universel des valeurs occidentales ou des droits de l'homme. Et que, au fond, les frontières entre les peuples, ces frontières-là ne méritaient plus d'être tant que cela dessinées et que l'on pouvait, d'un certain point de vue, se passer de l'État comme étant le moyen de garantir à chacun la sécurité. Le moyen devenait quelque chose qui permettait de garantir les droits de l'homme. Et au fond, on a mondialisé, et en mondialisant, en supprimant les frontières, on a aussi, d'un certain point de vue, désétatisé le monde. Et il se trouve que le monde de la Oumma, le monde des religions, en tout cas des religions universelles, ce monde-là est un monde qui ne connaît pas de frontières. Et c'est très intéressant de voir qu'au moment où l'Occident pensait avoir gagné, et qu'il pensait que, au fond, les frontières n'avaient plus d'utilité, que désormais, avec les droits de l'homme et un certain confort matériel, on arriverait à vivre bien. Et bien que, à ce même moment, cette idéologie absolument radicale qui utilise très bien la mondialisation, qui utilise très bien les réseaux sociaux, qui utilise très bien les frontières qui n'en sont pas. Alors je ne suis pas de ceux qui sont favorables à un retour des frontières, parce que je pense que aucun de nous souhaite revenir au système des guerres absolument épouvantables qui ont ensanglanté le 19e siècle et le 20e siècle. Mais je crois qu'il faut avoir bien conscience qu'en renonçant à nos frontières, nous avons, d'un certain point de vue, renoncé à ce qui avait permis de mettre fin aux guerres de religion, à savoir l'État, et donc nous avons offert un boulevard aux
djihadistes. Donc on recommence avec les guerres de religion.
D'un certain
et
point
est-ce
de vue,
que
oui.
L'Occident est une religion universelle? Parce qu'en vous entendre, on a l'impression que vous parlez un peu de comme s'il y avait effectivement une universalisation de la pensée occidentale qui pourrait s'apparenter aussi à une sorte de monothéisme laïque ou pas d'ailleurs.
Ça, je ne sais pas. Mais je crois que ce qu'a fait la modernité, c'est une très très grande chose. C'est qu'elle a proposé à chacun de distinguer le domaine du politique du domaine du religieux. Et que ce soit les droits de l'homme dans leur dimension non pas politique mais morale, ou que ce soit une religion, lorsque une idéologie prétend absorber le politique, à mon avis, on fait une chose qui est extrêmement dommageable. Je crois que la tolérance, la laïcité, bien compris, c'est-à-dire une distinction assez nette et assez ferme entre ce qui relève du politique et ce qui relève du religieux, est une grande invention de la modernité. Il faut vraiment sans cesse la rappeler, la promouvoir et se placer sur ce terrain-là, sur le terrain de cette grande idée pour lutter contre les djihadistes de tout poil.
13h17 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Notre invité, l'historien et juriste François Saint-Bonnet, pour son essai « À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État » qui vient de paraître chez Gallimard. Face à cette nouvelle menace, que faire? Que peut faire l'État jusqu'ici? Et vous évoquez ces quatre pistes dans votre ouvrage, François Saint-Bonnet. Quatre réponses ont été données, l'une principalement axée sur le droit pénal, l'autre sur le droit des conflits armés, et puis l'espionnage qui a été élargi, notamment jusqu'à la sphère privée, la question aussi des législations d'exception qui ont quitté le lit de leur strict encadrement spatial et temporel, évoquez-vous. Ce qui nous ramène à cette question notamment de l'état d'urgence. Alors récemment, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a évoqué une possible levée de l'état d'urgence qui n'a cessé d'être prolongé depuis qu'il a été mis en place après les attentats de novembre dernier. Mais avec les événements de ce week-end, à nouveau, il est en tension cet état d'urgence. Alors, est-ce la bonne réponse? Rappel des faits.
À la représentation française du FMI, ici, avenue d'Iéna, un colis qui était livré au secrétariat du représentant en France du FMI a explosé au moment où la secrétaire procédait à l'ouverture de ce colis.
C'est la quatrième fois qu'une patrouille de l'opération Sentinelle est visée.
Sentinelle, c'est 7000 militaires répartis à travers toute la France qui surveillent des centres commerciaux, des monuments, des gares, chacun les a vus. Ils sont 3500 en région parisienne. Et lorsqu'effectivement cet homme de 39 ans tente d'agresser la jeune fille de l'armée de l'air, cette jeune militaire qui est extrêmement choquée. Immédiatement, un de ses coéquipiers lui sauve la vie puisqu'il intervient et qu'il neutralise l'homme à ce moment-là. Donc le processus a parfaitement fonctionné.
Ils peuvent être jusqu'à 10 000 en cas d'attaque d'envergure. L'état d'urgence, lui, n'a été mis en place qu'après les attentats du 13 novembre.
Selon le garde des Sceaux, les conditions sont réunies pour une sortie de l'état d'urgence. Jean-Jacques Urvoas fait référence à l'adoption des lois sur le renseignement et au renforcement de l'arsenal antiterroriste.
Oser dire que la période de l'état d'urgence ne semble plus nécessaire me paraît une folie psychologique. Une faute politique, une erreur tactique même.
Face aux enjeux terribles auxquels nous sommes confrontés, l'insouciance n'est pas de mise. Rien, je dis bien rien, n'autorise à lever l'état d'urgence.
Il doit être maintenu aujourd'hui, et je l'ai dit, il ne peut être levé qu'à la lumière d'informations dont ni vous ni moi ne disposons.
Moi, je ne crois pas que l'état d'urgence aujourd'hui nous aide à lutter contre le terrorisme. Je le dis très franchement, ce dont nous avons besoin, c'est d'investir dans le renseignement, ça suppose de l'humain. Nous avons besoin d'avoir des cellules d'écoute. C'est utiliser l'état d'urgence pour pénaliser les mouvements sociaux, et je ne vois pas en quoi cela permet de mieux lutter contre le terrorisme.
Mais la menace, elle est là, elle demeure. Et nous devons y faire face, et c'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé autant de moyens et nous continuerons à le faire autant de temps qu'il sera nécessaire.
François Saint-Bonnet, un état d'urgence mis en place donc après les attentats du 13 novembre 2015, toujours en vigueur aujourd'hui. Est-ce que ça, c'était une bonne réponse de l'État face à ce défi djihadiste, face à cette menace terroriste nouvelle ?
14 juillet 2016, au matin, lors des vœux président de la République annonce qu'il va mettre fin prochainement à l'état d'urgence. Et puis le soir, il y a cet épouvantable attentat à Nice. On a le sentiment que, puisque ça n'a pas marché, l'état d'urgence, parce qu'il y a eu cet attentat, alors il faut le reconduire. Même chose le 15 mars dernier, M. Hervoas dit, dans la ligne d'un rapport parlementaire qui a été fait par M. Rimbourg et M. Poisson, qui dit, voilà, maintenant, l'état d'urgence est en vigueur, mais on ne l'utilise pas, on ne fait pas de perquisition, on fait très peu d'assignations à résidence. Et donc, il dit, il va falloir lever cet état d'urgence. Et puis, cet attentat à Orly, si on peut appeler ça un attentat, oui, je pense qu'on peut le faire. Donc l'état d'urgence ne permet pas de prévenir les attentats et par conséquent il faut le proroger. Moi il me semble qu'il y a quelque chose qui est...
C'est exactement ce qui s'était passé avant l'attentat de Nice, notamment, oui. 2-3 jours avant, oui. Même pas, François Hollande est
le matin même.
C'est ça, et puis on se retrouve dans la même situation.
Voilà, donc si vous voulez, proroger quelque chose qui n'est pas efficace me semble incertain. Alors pourquoi ça n'est pas efficace? Je voudrais essayer de le dire rapidement, mais l'état d'urgence est quelque chose qui a été conçu pour faire ce qu'on appelle du contrôle de zone, c'est-à-dire sur une zone délimitée de quelques kilomètres carrés ou éventuellement quelques centaines de kilomètres carrés, eh bien, on va pouvoir nettoyer la zone, permettez-moi cette métaphore peut-être un petit peu hardie, mais qui va consister à pouvoir perquisitionner, c'est-à-dire rentrer dans les maisons, perquisitionner les armes, y compris celles qui sont détenues légalement, écarter les gens qui pourraient être susceptibles d'être dangereux. C'est quelque chose qui a été conçu dès la loi de 1849 avec l'état de siège, qui a été reconduit et aménagé pour la guerre d'Algérie en 1955. Et c'est cette logique de contrôle de zone, et on l'a très bien vu en 2005-2006 au moment des banlieues, sur certains territoires précisément délimités, eh bien, il y avait cette possibilité de contrôler la zone. Or, il se trouve que le djihadisme est une menace qui n'est pas spatialisée, en particulier parce que le but des djihadistes n'est pas de conquérir un territoire, n'est pas de renverser un gouvernement, mais c'est de convertir l'ensemble du monde à une hypothétique oumma. Et par conséquent, l'idée même, si vous voulez, d'un état d'urgence qui serait étendu à l'ensemble du territoire et qui serait permanent, c'est quelque chose qui est une contradiction dans les termes. Que cherche-t-on à faire? Non pas à contrôler des zones, mais on cherche à toucher des individus qui sont des individus mobiles, qui sont des individus connectés et qui sont des individus qui se cachent. Eh bien, précisément, ça n'est pas en contrôlant des zones qu'on le fera. On a pu le faire en novembre et en décembre 2015. Il y avait la COP21. Là, il y avait bien un enjeu spatial. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. L'enjeu est mondial. Il est en tout cas au bas mot européen. Et par conséquent, il me semble que pour toucher ce type de menace, c'est-à-dire des gens mobiles, connectés, cachés, la fameuse taquilla, c'est cette dissimulation qu'ils apprennent. Eh bien, la technique de l'état d'urgence n'est pas adaptée et il y a d'autres techniques qui me semblent davantage adaptées.
C'est pas adapté.
Comme le renseignement.
C'est pas adapté. Vous dites ça sert à rien. Mais je vous poserai la question à contrario. Est-ce que c'est si important que ça de l'arrêter à ce moment-là, puisqu'on ne fait rien finalement avec ça?
Écoutez,
en quoi ce serait grave de continuer?
Au moment de la période importante de l'état d'urgence, c'est-à-dire entre le 14 novembre 2015 et le 8 janvier 2015, plus de 3000 perquisitions, y compris des perquisitions de nuit, avec des hommes armés jusqu'aux dents qui pénètrent dans les domiciles, une seule a abouti à une mise en examen en lien avec le terrorisme. Je veux dire par là qu'il y a des dégâts collatéraux qui sont très importants pour tous ces gens qui se sont fait perquisitionner au motif de l'état d'urgence alors qu'il n'y avait pas le moindre début de commencement de preuves les concernant. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, si vous voulez, le fait qu'il puisse y avoir des libertés qui soient légèrement ou de manière importante reniées pour la lutte contre le terrorisme, je suis favorable à une lutte hardie tant sur le plan politique que sur le plan idéologique contre le djihadisme. Je suis pour une lutte sans merci. mais utilisons les bons outils. Or, il me semble que ce sont des outils qui, non seulement ne sont pas efficaces, mais qui, en outre, font des dégâts collatéraux. Alors, il est vrai que depuis janvier 2007, c'est aussi ce que dit le rapport Rimbourg et Poisson, eh bien, ça n'est pratiquement plus utilisé. Il y a très peu de gens qui, aujourd'hui, sont assignés à résidence et les perquisitions se font très, très rarement. Dans ce cas-là, si c'est un outil dont on n'a plus besoin de se servir, pourquoi le mettre en œuvre alors qu'il a pu être mis en œuvre en un quart d'heure, hein, il suffit d'un décret du président de la République pris après une consultation du Conseil des ministres qui peut être réuni en urgence.
Donc, c'est quand même une forme d'acceptation, et vous le dites, démocratique de recul des libertés aujourd'hui. En même temps, vous l'écrivez à l'épreuve du terrorisme, les Français ont pu croire à la toute fin du XXe siècle que leur liberté ne pourrait plus jamais régresser. Aujourd'hui, avec la vigueur de la menace, ils réalisent que la liberté a un coût, en gros que la liberté n'est pas un dû. Pour vous, là, le coût est trop élevé. Il n'est pas justifié, en tout cas. On est toujours dans ce rapport...
Bien sûr, si vous voulez, moi j'oppose pas sécurité et liberté, j'oppose sécurité et sécurité, c'est-à-dire la sécurité physique et la sécurité juridique. Les deux doivent être défendus. Et la sécurité juridique, effectivement, elle peut avoir un coût. Et il me semble que pour le niveau de liberté n'est jamais absolument constant. Personne ne songe à considérer que l'État d'Israël est un État totalitaire sans liberté. Et pourtant, le niveau de liberté est bien moindre que celui de la France parce que le niveau de menace est beaucoup plus élevé. Nous avons vécu 70 ans sans guerre et sur notre territoire. Et nous sommes des générations qui ne sont pas du tout habituées à la violence dans nos rues. Il me semble que cette période est révolue, que cette période est terminée et que les générations qui vont nous suivre sont des générations qui vont être confrontées à cette violence. Donc le niveau de leur liberté ne sera pas identique. Simplement, ce qui me semble absolument fondamental, c'est que si on doit renoncer à des libertés, d'abord ça doit se faire après un débat démocratique un petit peu réfléchi et non pas en agitant et en entretenant les peurs, parce que le mot état d'urgence c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, qui rassure tout en faisant peur, mais en ayant un débat démocratique et aussi en utilisant des outils adaptés. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour considérer que ce qui est adapté à ce type de menace, c'est le renseignement. Alors le renseignement, ça porte atteinte hein, au respect évidemment de la vie privée. Pas pour tout le monde et pas dans n'importe quelle condition, mais ça porte cette atteinte-là. Je note d'ailleurs que dans le débat d'hier soir auquel on a fait allusion tout à l'heure, aucun candidat n'a considéré qu'il allait éradiquer, mettre fin de manière totale et définitive au terrorisme. Donc le discours fanfaron n'est plus d'actualité, ce qui me réjouit, parce que ça permet de discuter de manière un peu plus profonde. Et aucun n'a évoqué, sauf erreur de ma part, le maintien ou la levée de l'état d'urgence. Mais en revanche, tous ont utilisé cet argument qui est un bon argument, qui est de dire que ce n'est pas le droit qui permet de lutter contre l'état d'urgence, ce sont les hommes, c'est-à-dire des moyens de lutte, c'est-à-dire utiliser le droit tel qu'il est, et il offre de nombreux moyens, et puis aller par une connaissance approfondie de ce milieu, connaissance sur laquelle nous progressons beaucoup. Les services de renseignement français font un travail tout à fait admirable, ils progressent, on va y arriver, on va gagner, j'en suis absolument convaincu. Et simplement, utilisons les bons outils.
Et que ce n'est pas qu'une menace qui se situe sur le plan intérieur. Tous les candidats, en gros, hier, à partir de minuit, hein, parce qu'il a fallu attendre minuit pour avoir une réponse à cette question, ce qui est peut-être plutôt bon signe, qu'on n'ait pas ouvert les débats avec cette question de la sécurité, ont appelé à regarder quand même vers l'extérieur et à voir les autres guerres, entre guillemets, qui pouvaient se situer au-delà de nos frontières. Un grand merci à vous, François Saint-Bonnet. À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État vient donc de paraître chez Gallimard. Merci Antoine Mercier.
Merci.
Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie avec Henri Leblanc et Nicolas Dutant et l'aide précieuse de Coppelia Ménardi et d'Andrea Kinapi. Aux manettes aujourd'hui Perret Legras avec Yanis Joudad. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster ou nous écrire à la page de la Grande Table bien sûr sur franceculture.fr. Très bel après-midi à tous et à demain.